La chance existe-t-elle? La chance est-elle un état d'esprit ou est-elle le fruit du hasard? Si c'est un fruit, autant s'en nourrir. La chance n'est pas un don magique réservé à quelques-uns, mais bel et bien un phénomène que nous pouvons développer. Saisir sa chance, ça s'apprend, et ce n'est pas d'en faire un coup maintenant, mais de la faire durer. Philippe Gabillier est professeur de psychologie dans une grande école de commerce à Paris. Il est l'auteur d'Éloge de la chance aux éditions Saint-Simon et c'est notre invité aujourd'hui. Comment avoir de la chance? Cela commence par être disponible et pour rien vous cacher, si vous êtes en train de l'être en ce moment, ce n'est pas un coup de bol à quatre feuilles ou d'avoir du pot si vous êtes là à nous écouter. C'est que la chance vous sourit déjà. Alors je voulais savoir pourquoi certains ont de la chance et d'autres n'en ont pas.
Ça dépend de quelle chance on parle déjà parce que par exemple, la chance isolée, le coup de chance, j'ai gagné au loto, j'ai échappé par miracle à un accident, etc. C'est une espèce de chance un peu atypique, quoi, parce qu'elle est isolée et ça arrive une fois dans sa vie, rarement plus, heureusement d'ailleurs. Donc cette chance-là, en fait, on peut pas en dire grand-chose. Il y a un problème de fatalité, certains croient à la providence, chacun son truc. Alors en revanche, ce qui est plus intéressant, c'est ce que j'appelle moi la chance récurrente, quoi, la chance durable, comme il y a un développement durable. C'est-à-dire la personne qui dans sa vie semble collectionner les belles opportunités, les occasions qui vont bien, les rencontres intéressantes, etc. Et dont on va finir par dire à la fin, mais quand même, qu'est-ce qu'il a eu comme chance? Ou quelle chanceuse? Bon. Or en fait, il est probable que cette chance, entre guillemets, est en fait un rapport au monde. C'est-à-dire que la personne en fait qui est cette fameuse chanceuse en fait ou ce fameux chanceux, il a en fait développé un rapport à son environnement qui en fait une espèce d'attracteur d'inattendu positif. Ça c'est un point intéressant. Et comment est-ce qu'on peut être un attracteur d'inattendu positif? Déjà il faut déjà être un attracteur d'inattendu tout court, quoi. C'est-à-dire le chanceux. Est souvent quelqu'un, très souvent, même on voit quand on essaye de voir comment ils fonctionnent dans leur tête, le chanceux par exemple, c'est quelqu'un qui est dans une logique très souvent de curiosité par rapport au monde. Et s'intéresser aux autres, quoi, mais même s'intéresser aux choses qui l'intéressent pas d'habitude. C'est quelqu'un qui va vous dire, moi je m'intéresse pas à l'économie, alors bizarrement l'autre jour... J'ai lu un magazine économique, j'ai trouvé une idée absolument incroyable. J'étais chez le médecin, il y avait un truc qui traînait, là, une revue de mode, moi je lis pas les trucs de mode. Dis donc, en lisant, ça m'a donné une idée, d'un magasin. Dans ce magasin, j'y suis allé, je connaissais pas du tout ce magasin, et j'ai rencontré dans ce magasin quelqu'un d'extraordinaire. Alors, la caractéristique du chanceux, vous voyez, c'est que c'est quelqu'un qui va en permanence être dans une logique, il est prêt, quoi. Il y a un terme d'ailleurs en anglais qui est très très significatif, on dit que pour être chanceux, il faut avoir le luck readiness, c'est-à-dire le fait d'être prêt à avoir de la chance. Ensuite, généralement, le chanceux à répétition est quelqu'un qui, au fond de lui-même quand même, il ou elle, est en attente de quelque chose. Il y a beaucoup de gens, ils vous disent, moi, de toute façon, j'ai jamais eu de chance dans la vie. On a envie de leur dire, mais mon pauvre ami, même si tu en avais eu, qu'est-ce que t'en aurais fait, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un projet, une passion, un rêve, une envie, un désir, truc est là, quoi. C'est un peu, moi je suis du sud-ouest, hein, donc c'est un peu comme les parcs à huîtres, quoi. L'huître, elle a besoin d'avoir une espèce de piquet autour duquel s'accrocher. Il y a des gens, ils n'ont pas le piquet intérieur. C'est-à-dire que la chance, oui, mais alors pourquoi? Pour avoir plus de fric, s'acheter plus de bagnoles. Si c'est ça, ça n'ira pas très très loin. C'est pas ça la chance, quoi. La chance, c'est avoir utilisé au mieux l'inattendu pour mettre de la valeur ajoutée dans sa vie. Alors, de la valeur ajoutée humaine, de la valeur ajoutée, pourquoi pas spirituelle, de la valeur ajoutée relationnelle, et pourquoi pas de la valeur ajoutée économique, ça ne peut pas faire de mal. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Bon. De même, une autre caractéristique, tu vois, c'est que les grands chanceux sont des formidables recycleurs de malchance. C'est-à-dire que la personne qui dit « moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie », quand elle te raconte ce qui lui est arrivé, on se rend compte qu'il y a eu des tas de pépins, quoi. Des ennuis, des accidents de la vie, des choses qui n'ont pas fonctionné du tout, du tout, du tout. Mais c'est comme si ça fonctionne, vous voyez, en mode compost. C'est du compost humain. C'est-à-dire je prends du déchet de vie et j'en refais un engrais incroyable. Un jour, une dame qui m'avait dit dans un séminaire que j'animais, j'avais adoré cette image, elle m'avait dit, vous savez, chaque fois que je me plante, Il y a quelque chose qui pousse quand même. Ah, ça va être extraordinaire. Pour moi, c'est ça aussi la chance. Et puis, bon, j'ai l'intime conviction que les chanceux à répétition sont des hommes et des femmes qui sont optimistes. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à optimiser le monde dans lequel ils sont.
Quand tu disais, c'était un jeu de mots tout à l'heure, quand je me plante, il y a quelque chose qui pousse.
Ben oui, c'est ça qui est incroyable. Quand je me plante, quelque chose pousse. C'était drôle comme métaphore. Quoi, hein, voilà.
Donc, c'est bien que tu aies un petit peu désacralisé la chance. On pense que c'est celui qui gagne au loto, qui a l'occasion d'acheter une voiture rapidement. La chance, c'est pas vraiment occasionnel, c'est quelque chose qui s'alimente.
Exactement. Quand tu dis que c'est pas occasionnel, il y a une citation, on sait pas si elle est apocryphe ou pas, on n'en sait rien, mais il paraît que c'était l'un des fondateurs du Club Méditerranée, c'est Gilbert Trigano, une grande figure du monde du loisir et du tourisme, qui aurait dit « Un coup de chance n'a jamais fait un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil ne vous fait un bronzé ». Moi, je trouve cette image extraordinaire, c'est vraiment ça. Tu as d'ailleurs des gens, ils ont eu un coup de chance dans leur vie, ça les a plantés. La Française des Jeux, par exemple, sait très bien que... Pourquoi est-ce que la Française des Jeux suit d'aussi près ses grands gagnants? C'est que quand tu as un coup de chance formidable dans ta vie, ça peut te mettre en danger. Ça peut te mettre en risque par rapport à tes relations sociales, par rapport à la vie que tu avais avant, par rapport à tout ça. Et de même que la grosse malchance, mais vraiment, tu vois, l'accident grave, etc., peut totalement embarquer ta vie dans une autre direction. J'avais une interview l'autre jour du jeune chanteur là, de slam, là, Grand Corps Malade. Le gars, au départ, il s'occupait de jeunes dans les cités, etc. Il a un accident, il tombe dans une piscine, il se tape les vertèbres, il se pète tout, Le gars, il continue, maintenant c'est fini, le sport, tout ça c'est terminé, il a sa béquille. Mais grâce à ça, il le dit lui-même. Derrière, il devient un chanteur connu, tout ça. Donc la bifurcation, on ne peut pas savoir au début si elle est favorable ou défavorable. En revanche, il y a des bifurcations banales, et il y a des bifurcations remarquables. La question est de se mettre en situation d'affronter dans sa vie des bifurcations remarquables. Pour ce qui est de les faire positives ou négatives, ça se fera après. C'est-à-dire que la chance, c'est quand même aussi, qu'on le veuille ou non, une action. Quoi. C'est-à-dire que c'est un événement, peut-être inattendu, souvent inattendu, que l'on a rendu favorable par l'action. La chance, dans l'absolu, ça n'existe pas, je dirais. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, beaucoup de gens te diront qu'ils ne croient pas à la chance. Ils diront « Mais non, moi je ne crois pas à la chance, je crois au travail ». Oui, c'est vrai. Il n'empêche que même ceux qui te disent qu'ils croient au travail... Certes, ils ont beaucoup bossé, mais le fait d'avoir beaucoup bossé a, d'une certaine façon, favorisé l'apparition autour d'eux d'événements inattendus qu'ils auraient d'ailleurs peut-être pas repérés et vus s'ils n'avaient pas autant travaillé. Et on dit que la chance ne favorise que les esprits préparés. C'est Pasteur qui disait ça. Voilà, les gens se préparent par le travail, ils vont rencontrer la chance. Bon, un étudiant, parce que moi je suis prof, tu vois. Et un étudiant, et les étudiants, il faut qu'ils fassent des mémoires ici en troisième année. Et un étudiant, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qui me dit « Ah monsieur, c'est incroyable, depuis que j'ai choisi mon sujet de mémoire, c'est incroyable, j'arrête pas de croiser des gens qui s'intéressent au même sujet que moi. » Ah, j'ai dit « Ben ouais, voilà, ça c'est miraculeux, formidable. » Mais simplement, mon système de perception, tu vois, est en train de capter plein de choses autour de moi.
Tu parlais tout à l'heure tu donnais un exemple sur le travail. Le travail peut ouvrir la chance. Mais il y avait une autre chose que tu disais avant, cette disponibilité à accueillir la chance. Si je suis tout le temps dans le travail, est-ce que j'ai de la disponibilité pour accueillir ce qui vient à moi et d'entendre les possibilités ou les potentiels qui peuvent s'ouvrir pour entamer une démarche qui m'amènerait vers une possibilité de chance? Parce qu'il y a un crédit disponible. Si tu es pris tout le temps dans ton travail, tu ne peux pas ouvrir. Disponibilité.
Oui, tout à fait, on est d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que dans le fond, on est dans un monde... Alors, c'était probablement pas vrai pour nos arrière-grands-parents, bon, mais pour nous, c'est le cas. On est tiraillé, si tu veux, dans notre vie quotidienne, la plupart d'entre nous, entre deux extrêmes, en particulier quand tu as une vie professionnelle un peu intense, quoi, tu vois. On est tiraillé entre la concentration. Il faut être concentré, il faut être focus, quoi. J'ai un boulot à terminer, j'ai une réunion à mener, je suis concentré, quoi. Et on est tellement concentré que quand on arrête de se concentrer, un grand nombre d'entre nous, on part dans l'autre sens et on part dans la dispersion. D'ailleurs, on va faire des tas de trucs. Alors, je vais aller 5 minutes de télé, et puis un peu de téléphone, et puis un peu d'iPad, et puis aller les potes, et puis tout ça, puis je bouffe en vitesse, etc. Donc, on passe brutalement de concentration, et le ressort repart en arrière à dispersion. Et on oublie ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire entre la concentration et entre la dispersion, il y a une position médiane qui est la clé de la réussite, c'est l'attention. C'est-à-dire le fait d'être attentif au monde. D'être dans une... Alors il y en a certains, par exemple, pour être attentif au monde, la plupart d'entre nous, on va être obligé de faire des choses qui vont nous créer cette espèce d'état, un peu d'attention. Certains vont courir, d'autres vont se prendre des bains, tu vois, avec des huiles essentielles, d'autres vont faire de la cuisine. D'autres, paradoxalement, vont se mettre en état d'attention un peu flottante en regardant des sottises à la télévision. Peu importe, à la limite, chacun son truc. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de cet état d'attention si on veut que des choses émergent de soi. Tu vois. Quand je suis concentré, rien ne peut émerger, parce qu'on le voit très bien, quand tu es concentré, par définition, tu n'es pas attentif. Hein, bon. Et puis quand tu es dispersé, la mosaïque, si tu veux, est tellement forte qu'il n'y a rien qui peut vraiment en ressortir. Donc, si, nous, en tant qu'hommes et femmes de la modernité, tu vois, début du XXIe siècle, notre grande conquête, reconquête, à mon avis, c'est la reconquête de l'attention. Et pour certains, ça va être toi, dans l'instant présent. Voilà, là, je suis avec toi et on discute tous les deux. On est tous les deux, quoi, on discute. Je ne commence pas à cogiter à quoi que ce soit, penser les rayons d'avant, d'après, non. L'attention, c'est aussi ça, cette espèce de centration dans ce qu'on fait. Parce que c'est, vraiment, je suis en train de te parler de ce sujet que j'aime beaucoup, et pourtant, si ça se trouve, je suis en train de dire des choses qui moi-même, ah, tiens, c'est la première fois que je l'exprime de cette façon-là. Mais bon, je noterai derrière. On est dans un état d'attention. Tu vois, je suis pas complètement focus. Ah, bon, il faut que je lui dise exactement ça et ça. Non. On est dans un état qui est un état d'attention.
Quelque chose qui est récurrent, c'est quand quelqu'un a trop de chance, c'est ça porte pas chance, c'est-à-dire on en est jaloux, celui qui a trop de chance, c'est comme si des fois la chance, on l'acceptait pas quand elle est là, quand on en a trop, on se dit on la mérite pas, il y a quelque chose comme ça où on n'est pas en phase, avec, on est plus en phase avec, on va dire, la malchance, parce que ça fait partie de l'humeur actuelle, donc au moins on a l'impression qu'on est les mêmes, et on se ressemble, et on peut communiquer. Avoir trop de chance, ça peut rendre jaloux les collègues, parce que pourquoi lui il a ça, et moi je l'ai pas.
Oui, ben ça peut effectivement arriver, d'autant plus que la... y a un académicien français, hein, qui était Paul Gude, qui disait la chance, dans le fond, c'est ce qu'on mérite pas. Il avait aussi dit d'ailleurs, la chance, c'est la forme laïque du miracle, ce que je trouve assez rigolo comme approche. Mais pourquoi on ne mérite pas? Parce que la chance n'a pas de morale, si tu veux. La chance, t'as des voyous qui échappent à la police sur un coup de chance. Et de même, t'as des très braves gens que la fatalité assomme, quoi. Bon, ce qu'on appelle la chance, c'est pas une entité, tu vois, spirituelle, qui aurait des valeurs. Non, c'est pas ça. C'est l'inattendu débarque dans nos vies, et donc qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on peut que constater que c'est souvent injuste. Ce qu'on reproche aussi à la chance, c'est que c'est hors de contrôle. On dit, si au moins on avait un truc pour avoir de la chance à coup sûr, ça n'existe pas. Et alors quand même, tu vois, certes, on n'aime pas beaucoup les gens qui ont trop de chance, mais très souvent, on va te dire, oui, mais enfin bon, d'accord, il a de la chance dans ce domaine-là, mais il n'a pas de la chance partout. Parce que la chance, elle est censée, pour certains, être cloisonnée. Tu vois, dans le stéréotype de la chance, on te dit qui rit vendredi, dimanche pleurera, malheureux au jeu, heureux en amour, ou inversement, peu importe. Comme si, en fait, effectivement, il fallait qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Mais il faudrait qu'il y en ait un peu pour tout le monde si c'était effectivement une espèce de réalité physique. Mais ce n'est pas une réalité physique. Encore une fois, c'est un rapport au monde. Le gars qui a, ou la fille qui a trop de chance, c'est qu'effectivement, il a développé, peut-être même sans s'en rendre compte, une espèce de rapport, je dirais, d'adaptation à l'inattendu, hors du commun. Ben, comme tu as des gens qui développent leur oreille, qui vont développer leur sens graphique, etc. Oui, on peut. Bon, c'est un peu dommage d'être jaloux de ça. Il faudrait peut-être plutôt se demander comment est-ce que moi je pourrais faire pour avoir plus de chance dans ma vie à moi. Et puis bon, je dis, moi, ma théorie là-dessus, elle est claire, c'est que quand je commence à trouver que les autres ont trop de chance, je pense qu'il faut que moi-même, je commence à me demander, et si j'essayais pour une fois, moi, d'être une chance pour les autres. hein, et de façon à essayer d'oublier ce que je n'ai pas, parce que je suis absolument convaincu qu'un des moyens de réactiver en quelque sorte son processus de chance, c'est de dire, bah, tiens, à partir de maintenant, il faut que je sois une chance pour quelqu'un. C'est-à-dire que le gars qui va me rencontrer aujourd'hui par hasard, ou la fille qui va me rencontrer aujourd'hui, il faut que ce soit son jour de chance. Là, ça devient à mon avis beaucoup plus intéressant de partir dans cette direction-là.
Tu parlais qu'il y avait quatre façons différentes d'aborder la chance. Avoir de la chance, une chance aveugle ou accidentelle, percevoir des opportunités ou tout simplement lier à des expériences vécues. Tu as défini ça en quatre types.
Oui, alors, en gros, la chance aveugle, c'est véritablement le hasard. Le hasard, je suis dans la rue, une rue que je ne prends jamais, et je trouve par terre un magnifique billet de 500 euros. Ça m'est jamais arrivé, ça ne me arrivera probablement jamais. C'est un coup de chance, un petit coup de chance. Honnêtement, c'est une anecdote. On peut l'analyser de façon statistique, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Alors après, il y a des choses mystérieuses. C'est ce qu'on appelle la bonne étoile. Alors moi, je ne suis pas théologien, tu vois. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas philosophe. Mais alors, la bonne étoile, c'est cette espèce d'idée que certains serait en quelque sorte protégé. On a des exemples comme ça extraordinaires, tu vois, de gens qui ont échappé plusieurs fois de suite à des drames, à des attentats, par hasard. Ou même on a des exemples incroyables, il y en a quelques, c'est toujours très drôle, de gens qui ont été des gagnants récurrents, tu vois, au loto, des choses comme ça. Bon. Honnêtement, moi, en tant que psychologue, tu vois, je peux rien en dire. Je constate, je trouve ça amusant. Parfois, c'est édifiant. Je ne sais même pas si c'est inspirant. En tout cas, bon, c'est drôle. Mais ces chances-là, elles rentrent pas, si tu veux, dans le champ de ce qu'on peut développer. Alors après, t'en as deux autres. D'abord, tu as la chance, on va dire, par accident. La chance par accident provoquée. Ça, c'est souvent ce qui arrive aux scientifiques, par exemple. Tu vois, t'es en train de faire une expérience, tu rates ton expérience, tu la rates. Mais en ratant ton expérience, tu découvres autre chose. Tu vois. La pénicilline, au départ, c'est des boîtes qui sont oubliées dans un labo, et en fait, ça pourrit tout, et les gars commencent à regarder pourquoi ça a pourri, et ils découvrent la pénicilline. Le post-it, c'est une expérience chez 3M qui tourne court par rapport à des cols, et on découvre qu'il y a une espèce de colle incroyable, elle colle, elle se décolle ad vitam. Quoi. Bon, il y a des tas de choses comme ça, c'est tout à fait étonnant. L'aspartame aussi, c'est ça. C'est des choses qui ont été découvertes par hasard. Alors là, c'est le coup de chance. C'est intéressant, ça, c'est... La capacité à transformer en coup de chance ce qui au départ était un échec. Ça, dans nos vies, c'est une dimension, je trouve, très intéressante. Et puis, donc ça, ce serait la troisième. Et la quatrième, c'est ce que j'appelle la personnalité chanceuse, c'est-à-dire quelqu'un qui va, mais alors délibérément, presque volontairement, entretenir un espèce de rapport au monde, fait à la fois, comme ça, d'ouverture intellectuelle, curiosité, etc., et cette espèce d'attention, tu vois, d'attention aux possibilités. C'est-à-dire, je suis en permanence et ça devient une espèce d'état second, c'est comment transformer, pour moi ou pour les autres d'ailleurs, l'inattendu en chose positive. Mais ça devient une façon d'être, tu vois, une façon d'être avec les autres, une façon d'être dans son environnement, pourquoi pas d'ailleurs une façon d'être avec soi-même. Et tiens, si je me transformais en machine à opportunité, soit pour moi, soit pour les autres. Je crois que je ne sais plus qui est-ce qui disait, la meilleure façon, quand on y réfléchit, la façon la plus saine de réussir dans la vie, hein, ou d'atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Quoi, tu vois. Donc voilà, je me mets aussi dans cette disponibilité où, étant une chance pour autrui, c'est bien le diable si à un moment ou à un autre, même si je ne demande rien, il n'y a pas quelque chose qui me revient. Tu vois, là, une rencontre inattendue, l'info qui va tomber au bon moment, la découverte d'un monde auquel je ne m'attendais pas, un événement dans lequel je vais être embarqué sans savoir pourquoi.
Tu es enseignant, donc tu remarques que les élèves te posent quel genre de questions qui sont liées à la chance?
Oui. Tout le monde est dans le coup. Enfin, la question qui me pose le plus souvent, c'est logique, hein, on est dans des environnements d'école, donc il y a l'idée qu'il y a des techniques quelque part qui existent. Alors, je crois que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est: écoutez, monsieur, mais si on fait tout ce que vous dites, est-ce que vous pouvez nous jurer qu'on aura plus de chance? Et moi, je leur dis toujours: écoutez, les amis, non, moi, je ne peux pas vous jurer ça. Mais en revanche, je peux vous garantir un truc. Si vous faites ce dont on vient de parler, là, il va commencer à arriver des choses inattendues dans votre vie. Savoir si ça a de la chance, ça restera quand même votre problème, quoi. Pour en faire quelque chose, tu vois. En revanche, réapprendre, pour moi, la première étape, c'est réapprendre à accueillir l'inattendu, l'étonnant, le pas prévu, le non planifié, tu vois, dans ma vie et dans celle des autres. Ça, c'est un point important. Parce que, pour le coup, les ennemis de la chance, alors, on les connaît, hein, les ennemis de la chance, c'est la fermeture sur soi, tout, vouloir tout planifier, l'amorosité. T'as quand même le manque de lien. Tu peux pas avoir de la chance tout seul, par exemple. Tu vois. Donc déjà, ne serait-ce qu'être en connexion avec autrui, mais être en connexion avec autrui gratuitement. Il n'y a rien de pire que les gens, par exemple, qui ne veulent avoir des relations avec autrui que parce que l'autre peut leur apporter quelque chose. Ça, c'est complètement, c'est un truc, c'est complètement limitant. Par définition, je ne peux pas savoir aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même pas intéressant, si j'ai une relation avec quelqu'un, c'est parce que ce quelqu'un m'intéresse, je le trouve sympa, je le trouve beau ou belle, je le trouve marrant, voilà. Et puis à partir de là, on y va. Derrière, est-ce qu'un jour, ça créera des opportunités ? Sur le moment, on s'en fout, peu importe. Mais ce qui est clair, c'est que la chance, c'est un maillage. Ça fonctionne aussi comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que on est en permanence, plus je vais être en contact avec autrui, plus je vais créer, sans m'en rendre compte, des tas de maillages d'occasions et d'opportunités possibles. Dans le lot, ça serait bien le diable s'il n'y en a pas quelques-unes qui me retombent dessus positivement.
Y a-t-il un profilé de personnes? Quel genre de... Comment dire ça, hein? Comment je peux tourner ça? Avoir de la chance, c'est lié à une question de culture familiale, d'éducation, de façon de voir le monde.
Non,
est-ce que c'est une question culturelle?
Non, la question culturelle, elle va... D'ailleurs, le mot existe dans toutes les langues, hein, donc bon, là, il n'y a pas de souci. En revanche, tu as des cultures qui peuvent entretenir un rapport plus ambigu à la chance, parce que... La chance est obligatoirement, dans beaucoup de cultures dans le monde d'ailleurs, le fait de puissance supérieure. C'est-à-dire que j'ai de la chance parce que je suis sous la protection divine. Donc ça peut être le cas dans toutes les religions monothéistes, si tu veux, ou d'un dieu quelconque, hein, dans l'hindouisme. Bon. Donc quelqu'un qui va être en quelque sorte mon ange gardien. Donc il y a cette notion-là. Donc cette notion-là, on la retrouve quasiment dans toutes les religions, même chez les Grecs anciens. Hein, il y avait un dieu chez les Grecs qui était préposé à la chance, qui était Kéros. Hein, Kéros était le dieu qui était préposé. T'avais en gros, chez les Grecs, t'avais deux dieux qui géraient le temps. T'avais Chronos, c'est le temps qui passe en gros, et Kéros qui était le temps favorable. C'est rigolo parce que Kéros, chauve, avec une touffe de cheveux, et donc Kéros, il faut qu'il passe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le concept, par exemple, de Kéros, c'est attention, pour le choper, encore faut-il que je l'ai attendu. Que je sois à l'affût de quand il passe, etc. Donc il y a aussi un travail qui vient de moi, quoi. C'est pas uniquement j'attends et puis la chance va tomber. Et ce qui s'est passé, c'est que après, dans un certain nombre de civilisations dans lesquelles la dimension hasard a baissé, c'est de moins en moins le hasard qui était source de chance, et de plus en plus le travail, mais au sens, ça peut être le travail intérieur, tu vois, ça peut être le travail sur son âme, mais le travail intérieur va te préparer le terrain de la chance. Et dans toutes les civilisations, tu as cette espèce de bagarre permanente entre ce qui est de l'ordre du hasard, du fortuit, malheureusement quand c'est négatif, de la fatalité, et ce qui est de l'ordre du travail, à la fois avoir fait le nécessaire pour que, en tout cas, la chance peut-être vienne sonner à ma porte, et puis le travail intérieur, c'est-à-dire m'être préparé intérieurement et être clair dans ma tête, quoi, sur le fait que si, par définition, si je rencontre une opportunité, c'est que je l'ai méritée. Voilà. Je ne sais plus qui est-ce qu'il disait, un vrai malchanceux, un vrai, chaque fois que la chance vient frapper à sa porte, il appelle la police pour tapage nocturne. C'est-à-dire, il passe son temps à laisser passer les choses. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse passer, dans le fond ? Quand tu te dis, mais pourquoi, comment ça se fait que des gens laissent passer leur chance tout le temps ? Ben, on a bien vu, ils laissent passer leur chance tout le temps, souvent ben, d'abord parce qu'ils ne sont pas attentifs. Ils sont pas attentifs, ils sont pas prêts, quoi. Ils sont pas. Hein. Et en plus, il y a un problème d'intention. C'est-à-dire que l'intention, ça marche dans tous les sens. Hein. Ça marche pour la malchance aussi. Hein. C'est le gars qui te dit, mais moi de toute façon, j'ai la loose. Dès qu'il y a un problème, c'est pour moi. Mais attends, il ou elle est en train de créer les conditions pour que, quelle que soit la matière première de vie qui va se présenter à sa porte, il va la transformer en lisier, quoi. Tu vois. Donc c'est ça qui est catastrophique.
Maître, à quoi reconnaît-on un coup de chance? À ce qu'il te permet de faire après l'avoir reçu.
Oui, parce que ce qu'on appelle le coup de chance, encore une fois, ce n'est qu'une bifurcation inattendue. C'est une bifurcation inattendue. Je rencontre quelqu'un que je n'aurais pas dû rencontrer, il m'arrive un accident que je n'aurais préféré pas avoir, je tombe par hasard, j'étais parti pour acheter un bouquin, tu vois, sur un sujet donné, j'ai pas trouvé le bouquin, donc j'ai traîné dans la librairie, et là je suis tombé sur un bouquin, mais qui avait... Et en achetant ce truc, je découvre des choses formidables. Voilà, il y a une bifurcation de vie, j'ai pas vu venir, et j'en ai fait quelque chose. Donc, il y a une en gros, la chance n'est jamais, si tu veux, un produit brut. C'est toujours un produit raffiné.
Et pas mal celle-là. Maître, je crois que je n'ai jamais eu de chance, mais même si tu en avais eu, quand en aurais-tu fait ?
Si tu ne donnes pas un projet, si tu ne donnes pas un rêve, si tu ne donnes pas de quoi à ta chance quelque chose pour la nourrir, ça ne servira à rien. On ne peut avoir de la chance, c'est aussi toujours par rapport à un projet. Quand on dit la chance favorise que les esprits préparés, c'est véritablement ça. C'est véritablement ça.
La petite histoire, elle est vraie à la fin pour la boutique ou comment ça s'appelle, à la fin du livre, regarde.
Oui, oui, bien sûr.
C'est une histoire que tu as vécue ?
Non, c'est une histoire que je dirais, c'est un vieux conte que j'ai simplifié et que j'ai mis à ma façon, mais que je trouvais que c'était une jolie histoire dans laquelle ce gars débarque dans une boutique un peu magique où on lui propose de lui donner tout ce dont il a besoin pour être heureux. Donc il va commencer à passer des tas de commandes. Alors il veut un job fabuleux, la santé, être charismatique, des tas d'amis, une famille formidable. Et donc le gars dans la boutique, il dit, il n'y a pas de problème, je vais vous charger tout ça en réserve. Et le gars revient de la réserve et il donne au gars un tout petit sac en cuir, comme ça, tout pourri. Et le type est étonné, lui dit, enfin, je comprends pas, je vous ai commandé des tas de choses très précises et vous me donnez un petit sac, et ça, je comprends pas. Et le gars lui dit, écoutez monsieur, moi je peux vous jurer une chose, c'est que tout ce que vous m'avez demandé sans exception se trouve dans ce petit sac, mais moi je ne peux vous donner que ce que j'ai, et donc permettez-moi déjà de vous offrir les graines, toutes les graines, mais pour ce qui est de les faire pousser dans votre vie, ça restera quand même votre problème à vous.
Quels sont les secrets pour avoir de la chance que tu pourrais donner comme ça, pour ceux qui se disent « j'en ai jamais eu ».
Il y a deux choses très faciles. La première, c'est un rapport avec la curiosité. Il faut commencer à se dire voilà, « aujourd'hui, quelles sont mes routines ?» Est-ce qu'il y a des choses que je fais par routine ? Et il faut se choisir 3-4 routines qu'on va décider de détruire. C'est-à-dire on va faire les choses différemment. Je vais arrêter d'aller prendre mon café le matin dans le même bistrot. Je vais arrêter d'aller manger avec les mêmes personnes tous les midis. Surtout si en plus je les trouve pas très sympas, quoi. Je vais vraiment se mettre à la chasse, tu vois, des routines tueuses d'opportunités et de chance. Ça, c'est le premier. Lutter contre ces routines, casser ses propres codes, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est je fais la liste, je fais sur une feuille de papier la liste des 5, 10, 15 personnes pour qui j'aimerais, moi, être une chance, éventuellement. Puis là, j'ai commencé à essayer à me dire, tiens, comment est-ce que je pourrais être un peu de chance pour ces gens-là ? Voilà. Leur créer les conditions pour leur apporter l'info dont ils ont besoin en ce moment, les faire se rencontrer, voilà. Devenir une espèce de porte-chance. Dès l'instant où on fait ça, voilà, se met en place une dynamique nouvelle que, comme je dis à mes étudiants, je ne sais pas, moi, si la personne aura plus de chance, mais des tas de trucs inattendus vont commencer à apparaître dans sa vie. Ça sera à elle d'en faire quelque chose, quoi.
Et pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire ? Quelque chose auquel je n'aurais pas pensé ?
Oui, moi, je pense qu'elle est, elle est à la porte, mais elle nécessite vraiment que nous ouvrions d'abord notre... Nous nous donnions le droit, hein, d'avoir de la chance. Dernier conseil, c'est à partir de maintenant... Si vous voulez changer les choses autour de vous, d'abord commencez à affirmer, dites-le, n'hésitez pas, je suis quelqu'un qui a de la chance. Et alors surtout, pourquoi est-ce qu'il faut dire ça ? Parce que dans le fond, chaque fois que tu dis « j'ai de la chance », les gens, eux, ils entendent « il a de la chance », le verbe « avoir ». Mais ton inconscient, lui, quand tu dis « j'ai de la chance », ton inconscient, lui, il entend « j'aide la chance », le verbe « aider ». Voilà. Donc chaque fois que tu dis « j'ai de la chance », tu dis à la fois que tu en as et que tu es en train de l'aider. Elle est prise, je dirais, complètement des deux côtés. Elle va être obligée de se remettre à ton service.
Merci Philippe. Merci. Good luck. Maintenant que vous avez saisi le phénomène de la chance, toutes les occasions vous seront propices. Mais c'est à vous de chercher, de provoquer la chance, la baraka, la bonne étoile, l'atout, les possibilités, la réussite, la prospérité, la veine, l'aubaine, le bonheur et l'éloge de la chance. Aux éditions Saint-Simon de Philippe Gabillier, notre invité aujourd'hui dans Message de vie.